Voilà, un nouveau rendez-vous des carnets hebdomadaires de Comaguerre pour parler de l'actualité internationale. Et je retrouve avec plaisir Roselyne qui nous rejoint dans l'émission. On est content de t'accueillir à nouveau. Tu nous as manqué. Hein. Et puis, on remercie Johan qui est à la cabine technique, qui nous donne un petit coup de main très gentiment pour qu'on reprenne nos habitudes de travail, de groupe, donc Comaguerre en entier. Alors Comaguerre n'est pas en entier aujourd'hui, puisque notre spécialiste, notre humanitaire de service, j'allais dire, pour parler en le cas taquinant de Habib, est en voyage pour les raisons de soutien humanitaire à la Syrie, dont il nous a déjà parlé et dont il nous reparlera la semaine prochaine à son retour. Alors, je vais commencer par vous parler, comme je le fais depuis quelques semaines, par la situation sur le front des retraites, car je considère qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt central, national, et qui touche directement à la vie politique de notre pays, pas simplement sur ce dossier technique des retraites, mais beaucoup plus que ça, puisque, à nouveau, alors vous êtes au courant du détail de la procédure, l'Assemblée nationale, le Sénat, et puis maintenant la fameuse commission mixte paritaire dont je vais vous toucher un mot. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que d'un bout à l'autre de cette procédure, encore qu'il ne soit pas totalement achevé, le gouvernement a agi à la frange de la légalité constitutionnelle. Et je suis modéré dans mon appréciation. C'est-à-dire que l'utilisation de l'article 47.1 de la Constitution est déjà en soi marginale et probablement une violation de la constitutionnalité. L'article 47.1 ne s'applique que quand il faut retoucher une loi de financement de la sécurité sociale qui n'a pas été clôturée au moment du début de l'exercice de l'année. C'est-à-dire que les lois de financement de la sécurité sociale se votent en général tous les ans dans la session d'automne du Parlement, c'est-à-dire elles doivent être votées au plus tard le 31 décembre de l'année qui s'achève pour que le 1er janvier, voire le 2, admettons qu'il y ait une trêve des confiseurs, les budgets de la sécurité sociale, comme le budget de l'État qui est voté dans la même période et dans les mêmes conditions, puissent être mis en œuvre. Et la procédure de l'article 47.1 n'intervient que quand ces deux lois, une de ces deux lois ou les deux, n'ont pas été votées dans les temps. Et il y a donc un système d'accélération pour qu'effectivement le budget de l'État ne soit pas verrouillé, que l'État ne puisse rien dépenser, même pas payer son personnel, et que la sécurité sociale non plus ne puisse pas le faire. C'est ça l'article 47.1. Et là, on a un usage dramatiquement abusif de cet article pour faire passer la loi de réforme des retraites qui ne met pas du tout en cause l'équilibre des comptes de la sécurité sociale sur 2023. Puisque c'est des plans sur plus de 10 ans. Donc, abus de droit caractérisé, mais et je le redis parce que je l'avais dit la première fois, le Conseil constitutionnel, s'il était saisi, ce qui est possible, même, peut-être même probable, serait en capacité d'arrêter cette comédie-là, enfin, ces manquements à la légalité constitutionnelle. Seulement, le Conseil constitutionnel lui-même n'est pas dans un état de vigueur juridique tel qu'on puisse attendre un résultat très sûr de sa saisine. Bon, on en revient, ça ne s'est pas fait, on en revient. Et puis ensuite, on est arrivé, donc, le débat à l'Assemblée nationale a été bâclé. Il ne s'est pas achevé sur un vote, puisque de toute façon, on était cadré dans les délais de cet article 47.1 de la Constitution. Et donc, le jour où le délai était atteint, c'était terminé, que le débat soit clos ou pas clos. Il n'était pas clos, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire qu'on a un débat parlementaire qui n'a pas servi à grand-chose. Enfin, il y a eu beaucoup d'échanges de propos plus ou moins vindicatifs, etc. Mais ça n'a pas avancé sur le contenu du texte et sur l'orientation de la réforme. Et puis, c'est passé au Sénat, parce que c'était inscrit comme ça dans l'article 47.1, l'Assemblée, c'était fini. Restez chez vous, rentrez à la maison. Bon. Alors le Sénat s'en est saisi avec le même type de contrainte, c'est-à-dire il avait un certain nombre de jours très très courts pour examiner le texte. Bon. Et là, alors, la mécanique parlementaire a été utilisée d'une autre façon. Il y a un autre article touchant la procédure de vote au Sénat. Toujours est-il qu'au bout de la semaine pendant laquelle les sénateurs avaient le texte sous les yeux, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Il y a eu quelques amendements de passé, mais finalement, le texte a été passé en bloc sur un vote final. On dit, de toute façon, maintenant, c'est fini. Vous nous intéressez plus. Ce que vous pouvez dire, les sénateurs, et rien, c'est pareil. Hein. Et donc, le gouvernement renvoie ses textes, son texte, donc, même s'il avait été un peu amendé, il le renvoie tel qu'il était au début, tel qu'il n'a pas été modifié officiellement par l'Assemblée nationale, à la fameuse commission mixte paritaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une commission mixte paritaire? Ça fait partie, là, c'est un peu particulier, ça s'appelle la navette parlementaire, c'est-à-dire un texte passe d'abord à l'Assemblée nationale, s'il est amendé, il va au Sénat, avec les amendements de l'Assemblée nationale. Ça suppose que l'Assemblée a eu le temps de travailler et a eu le temps de faire les amendements qu'elle a l'intention de faire. Et puis après, une fois que le Sénat a travaillé dessus, il en sort en général pas le même texte, parce que le Sénat, pour des raisons qui sont d'ailleurs liées à l'esprit du constituant, le Sénat n'est pas constitué de la même façon. Vous savez que les sénateurs ne sont pas élus par la population, ils sont élus par les hommes politiques, donc par les députés, par les maires des principales villes, par les conseillers départementaux et tout. Et donc on a ce qu'on appelle la chambre haute, c'est une chambre beaucoup plus, j'allais dire, péperde, c'est-à-dire qu'on est entre hommes politiques, on n'a pas un siège qui est soumis à des mécontentements immédiats de l'électorat, puisque l'électorat, ce ne sont jamais que des collègues du monde politique, des élus ici et là, et donc le Sénat est plutôt une chambre de ralentissement des choses, d'adoucissement, d'étouffement des coups, etc. Le Sénat ne s'empare pas des mouvements de rue, alors qu'un député y est forcément plus sensible. Alors on a longtemps dit que le Sénat, c'était la France profonde, la France rurale. Alors c'est plus tout à fait le cas, parce que la France rurale est moins peuplée qu'elle n'a été à d'autres époques, mais on l'appelait à l'époque l'Assemblée du Seigle et de la Châtaigne. Ça disait bien ce que c'était, ce Sénat et ses sénateurs. Alors ils sont plus venus des milieux ruraux ou agricoles, encore moins, mais ils sont quand même d'un âge supérieur en moyenne aux députés, et puis ils n'ont pas d'inquiétude pour leur siège, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans des combinaisons électorales dont ils ont souvent le secret. Ils arrivent à y rester. C'est le cas, par exemple, de notre ancien président du Conseil départemental, Jean-Noël Guérini, même après avoir subi des condamnations pour des malversations dans l'exercice de ses fonctions. Mais comme l'appel n'a pas eu lieu, il est toujours sénateur. Enfin, voilà. Donc, c'est une assemblée dont il ne faut pas attendre des coups d'éclat extraordinaires. Bon, elle n'en a pas fait. Et le texte du gouvernement est reparti et arrive devant cette commission mixte paritaire, qui serait censé, théoriquement, trouver un arrangement entre les deux versions. Mais en fait, il n'y a pas d'arrangement possible, puisque personne n'a pu faire son travail proprement, et que finalement, le seul texte qui reste sur la table, c'est le texte du gouvernement. Bon. Ce qui veut dire que, de toute façon, ce qui sortira de cette commission mixte paritaire, qui a donc été soigneusement sélectionné, parce que c'est 7 sénateurs, 7 députés, vous imaginez bien que le gouvernement n'a pas laissé le choix au hasard de cette sélection. Bon, et ce qui sortira de ça, c'est un nouveau débat à l'Assemblée nationale, mais toujours dans cette espèce de seringue qu'est l'article 47.1, c'est-à-dire qu'ils n'auront encore que quelques jours pour à nouveau essayer d'y apporter, s'ils le souhaitent, des modifications. Et après, il faudra peut-être, il y aura même sûrement un vote, bon, défini. Donc on n'en est pas là. L'étape actuelle, c'est donc la fameuse commission mixte paritaire de ce mercredi, qui donnera lieu, à juste titre, et je le souligne, à des manifestations de rue dans toute la France, et c'est très bien, pour montrer que de toute façon, et c'est ça la leçon qu'il faut tirer, c'est-à-dire qu'à force de tricher ou de passer à la marge des dispositions constitutionnelles, on a un gouvernement qui a décidé de toute façon de ne pas respecter le système parlementaire. C'est ça qui se joue sous nos yeux. Et c'est ça dont je pense et dont j'ai l'espoir, parce que en parlant dans les manifestations, on s'aperçoit bien qu'effectivement, il y a une espèce de rejet devant cette forme de parlementarisme et cette forme de relation du gouvernement aux parlementaires qui fait que les parlementaires, finalement, ne servent plus à grand-chose, si ce n'est à dire oui. Et donc, le parlementarisme perd du sens. Et donc, on est devant une situation politiquement dangereuse, c'est-à-dire où il n'y a plus beaucoup d'illusions sur les qualités et les capacités de la Constitution actuelle de la Ve République de faire entendre la voix du peuple et de faire passer des réformes, des transformations qui soient dans l'intérêt général de la population. Quand on y ajoute ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, que le Conseil constitutionnel lui-même est plutôt dans un état de grande faiblesse avec des Juppé, des Fabius et des personnages de cet acabit à sa tête, effectivement, c'est l'ensemble du dispositif constitutionnel de la Ve République qui est rongé par les termites. Par les termites du non-respect par la population, par la distance du gouvernement par rapport à la population et par la volonté du chef de l'État, et je pense de son entourage, de faire comme si, de toute façon, l'opposition publique n'existait pas. C'est un jeu extrêmement dangereux auquel cette équipe se livre. D'une part, s'asseoir, enfin, mépriser le peuple, ça fait déjà 5 ans que ça dure, mais s'asseoir sur l'ensemble des dispositifs constitutionnels, ça veut dire casser le jouet. Et après, quand le jouet est cassé, il faut reconstruire. Alors, la reconstruction, quelquefois, ça se passe bien et quelquefois, ça se passe moins bien. Hein. Surtout quand la population est dans la rue, mécontente, soumise à des hausses de prix, soumise à des tas d'inconvénients dans la vie quotidienne. Ce n'est pas forcément un moment facile. On est devant ce moment-là, mais il faut bien savoir que ce n'est pas le peuple qui est dans la rue ou la fraction du peuple qui est dans la rue qui a choisi cette forme d'affrontement avec le pouvoir. C'est le pouvoir qui a dit, de toute façon, je passe en force, je m'assois sur les textes, je triche avec la Constitution, je fais comme si j'entendais rien. C'est un jeu très dangereux. C'est lui qui a décidé de le jouer, c'est pas nous. Mais à nous de jouer la part que nous avons à jouer, c'est-à-dire une expression collective sur des besoins collectifs qui ne sont pas des besoins d'envoyer des canons en Ukraine, qui sont des besoins d'avoir du personnel dans les écoles, d'avoir du personnel dans les hôpitaux, d'avoir un pays qui soit fraternel avec ses voisins. En particulier, je pense aux pays africains, ce qui est de moins en moins le cas, hein, puisqu'on a parlé la semaine dernière, tu n'étais pas là, Roselyne, mais de la visite d'Emmanuel Macron dans le centre de l'Afrique, et en particulier de la séance particulièrement houleuse qui a eu lieu entre lui et le président de la République démocratique du Congo, où le président de la République démocratique du Congo lui a fait comprendre d'abord qu'il mentait, et d'autre part qu'on ne lui parlait pas comme ça. Il était sur le même ton qu'il avait eu quand il était allé au Burkina Faso et qu'il avait dit au président, en rigolant, il est allé réparer la clim. C'était ça. Bon, ça, il faut bien que M. Macron se rende compte que ça ne passe plus du tout, du tout. Et que chaque voyage qu'il fera sur ces bases-là et avec ce type de discours, il reviendra avec encore une note beaucoup plus faible dans tous les pays extérieurs à la France. Alors, la note en France n'est pas bonne, on le sait, mais la note en Afrique est encore moins bonne. J'en veux pour preuve une interview du Premier ministre malien récemment, M. Choguel Maïla, qui a fait une interview sur Al Jazeera, parce qu'il préfère parler à Al Jazeera que sur les chaînes françaises, sur RFI ou les autres, pour dire qu'effectivement, maintenant qu'il avait vu comment tout ça fonctionnait, il invitait tous les chefs d'État africains ou chefs de gouvernement à venir au Mali eux-mêmes, à discuter avec le gouvernement malien, à aller sur le terrain pour voir ce que c'était que la lutte contre le terrorisme réellement. Je signale à ce sujet que depuis que l'armée du Burkina et l'armée du Mali se mettent à chasser le terrorisme, ils ont des résultats. On n'a pas affaire à des patrouilles de farceurs qui font une fauche sasse aux terroristes. Non, non, il y a des résultats. Alors, les deux armées souffrent parce qu'il y a des pertes en hommes, mais ils font leur travail, c'est-à-dire on leur dit d'aller attaquer les terroristes, ils attaquent les terroristes, et il y a des morts dans les rangs des terroristes. Le travail est fait. Ils font le job, comme on dit couramment maintenant. Bon, c'est ça qui est en train de se passer. Et ce que dit le Premier ministre malien sur Al Jazeera, c'est dire, de toute façon, venez nous voir, regardez ce que nous faisons sur le terrain, et vous verrez que ce n'est pas la façon dont les choses sont racontées sur RFI, sur BFM TV. C'est ça la réalité. Venez voir, écoutez-nous, on est posé, on est raisonnable, on a été formé, on n'est pas des imbéciles, on a un pays, on le respecte et on veut le défendre. Les gens qui voulaient le défendre à notre place, on n'a plus confiance en eux. Voilà la leçon sur cette séquence-là de la République française, qui n'est pas extrêmement brillante. Bien. Ensuite, alors on va faire une séquence sur une séquence anglo-saxonne. Il y a eu lieu à San Diego, vous savez, San Diego, c'est le port le plus au sud de la Californie, pas très loin de la frontière mexicaine, une réunion qui a rassemblé M. Biden, bien entendu, le Premier ministre australien, M. Albanese, et le Premier ministre anglais, M. Rishi Sunak, que vous connaissez, vous avez dû le voir sur les écrans maintenant. Pourquoi ces trois personnages se retrouvaient-ils donc sur le quai du port de San Diego, qui est un port militaire, hein, le port militaire le plus au sud donc des États-Unis ? Parce qu'ils allaient célébrer une occasion de rencontrer le fameux groupement qu'on appelle AUKUS, AUKUS, hein, qui rassemble, donc vous le savez, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Japon et l'Australie, qui est une coalition clairement anti-chinoise, ça ne se cache pas de l'être, et qui a été à l'origine du fameux coup tordu dont a été victime le gouvernement français, c'est-à-dire que c'est cette coalition surgie dans les coulisses sans que la diplomatie française en ait été avertie, qui a décidé de mettre un coup d'arrêt à la commande de sous-marins français par le gouvernement israélien et de remplacer ces sous-marins par des sous-marins d'une autre catégorie fabriqués. Alors, je vais aller dans le détail la fabrication. Donc, on a mis à l'écart, la France a pris une énorme paire de claques. Je ne sais pas si elle en est remise, mais je sais qu'au niveau financier, donc le Naval Group qui devait construire ces sous-marins va recevoir des indemnités compensatrices. C'est normal, on est dans une économie capitaliste. Vous rompez un contrat, mais il y a des dédits à payer. Ça sera fait. Mais le camouflet diplomatique reste vrai. Qu'est-ce que c'est que les nouveaux sous-marins ? Alors, c'est là que ça a changé totalement de dimension, puisque les États-Unis ont proposé à l'Australie d'héberger, et puis ensuite de leur fournir, des sous-marins à propulsion nucléaire de la dernière génération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un sous-marin à propulsion nucléaire ? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un moteur diesel ou électrique, ce sous-marin est propulsé par une toute petite centrale atomique, ce qui a l'avantage de lui donner une autonomie extrêmement importante, il peut rester très longtemps sous l'eau, d'être beaucoup moins bruyant que les sous-marins à propulsion classique, et donc de pouvoir passer inaperçu beaucoup plus longtemps que les autres. Donc il est, pour l'adversaire désigné, parce que là il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est tout à fait clair, il est pour la Chine une menace d'une qualité bien supérieure à la qualité de celle des sous-marins français qui étaient prévus au programme. Alors, et d'ailleurs, il faut savoir que le niveau de cette menace a monté, puisque le changement, le camouflet infligé à la France, voulait dire que les États-Unis considéraient que ces sous-marins donc classiques que la France devait fournir n'étaient pas à la hauteur du problème posé, non pas à l'Australie, d'ailleurs, ce n'est pas l'Australie qui est en cause, aux États-Unis, c'est-à-dire que l'encerclement naval et l'encerclement militaire de la République populaire de Chine devaient monter à un niveau supérieur. Et donc, ce qu'il y a potentiellement, c'est que ces sous-marins donc à propulsion nucléaire pourraient s'aventurer à quelques kilomètres de la côte chinoise et de là tirer quelques missiles qui toucheraient la République populaire. Alors, on n'en est pas là parce que vous allez voir que les échéances ne sont quand même pas tout à fait celles que je vous annonce, enfin, pas celles d'une guerre immédiate. Mais on est tout à fait dans le cadre donc d'une politique anti-chinoise avérée, exprimée clairement, donc décidée par les États-Unis et dans laquelle la Grande-Bretagne et l'Australie se joignent complètement et se trouvent complètement d'accord. Alors, les échéances, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il va se passer qu'effectivement, comme on ne fabrique pas comme ça des sous-marins nucléaires à propulsion atomique en grosse quantité, même aux États-Unis qui en font, en fait, les États-Unis vont envoyer une partie des sous-marins qui sont en activité ou en cours de construction directement en Australie, pour qu'ils les aient vraiment, pour que ce ne soit pas une annonce en disant « Vous allez voir, pour qu'ils ne disent pas aux Chinois avec un petit sourire, vous allez voir en 2035 comment on sera dangereux. » Bon, les Chinois, ça ne leur ferait pas grand-chose qu'on leur dise ça. Donc, effectivement, il va y avoir une partie de l'arsenal états-unien qui va être installée en Australie. Ce qui veut dire, au passage, et d'ailleurs des observateurs internationaux l'ont noté, qu'il y aura sur place de quoi entretenir des moteurs nucléaires, des petits réacteurs. Il y aura sur place des carburants pour ces moteurs, etc., de l'uranium enrichi, du plutonium, etc., ce qui met l'Australie en contradiction avec le traité de non-prolifération sur les armes nucléaires. Mais ça, ça n'a pas l'air de les déranger beaucoup. Ils sont tout à fait d'accord avec ce plan-là. Donc ça, ça sera la première étape. Et puis ensuite, probablement pas avant 2030 et peut-être même 2032-33, il s'engagera en Royaume-Uni et en Australie la construction de sous-marins nouvelle génération de ce modèle-là, mais qui seront fabriqués par les personnes, les États concernés. Donc vous voyez, on en est. Alors l'annonce est grandiose, hein. Ça y est, la guerre contre la Chine progresse. En fait, ça met quand même un certain temps à se mettre en place. Et c'est assez à l'image de toutes, j'allais dire, les vantardises impériales. C'est-à-dire, vous allez voir ce que je vais aller voir, je vais venir vous menacer sur vos côtes, puis quand on fait le compte, vous allez me menacer avec quoi, hein ? Ben, effectivement, c'est pas évident, c'est pas tout de suite, vous allez voir, enfin, on va envoyer quelques sous-marins qui sont déjà chez nous, et puis il y en aura plus après. Hein. Mais tout ça, c'est des échéances de la décennie, voire plus. 10, peut-être 15 ans. Alors, vous imaginez, je le dis en riant, les Chinois sont terrorisés de peur. on l'imagine volontiers. Bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le même temps, d'ailleurs, le budget 2024 du Pentagone vient d'être annoncé. Donc, il est à quasiment 850 milliards de dollars. Donc, par rapport au budget 2022 du même Pentagone, il a quand même gagné 100 milliards de dollars de plus. ce qui n'est pas tout à fait rien. Hein, ce qui n'est pas tout à fait rien. Un peu moins par rapport à 23, mais ça fait 100 milliards de plus qu'en 2022. Vous voyez que là aussi, les ambitions sont grandes, et sur tous les terrains, que ce soit pour l'aviation, que ce soit pour la marine, que ce soit pour la modernisation de l'armement nucléaire, tout y est, et à des niveaux donc qui sont, alors je le rappelle quand même, parce que on oublie de nous le dire, mais qui sont en gros 4 fois au niveau du budget militaire de la République populaire de Chine. C'est ça la réalité des chiffres que même les experts états-uniens ne contestent pas. Mais est-ce que ça suffira? C'est autre chose. Parce qu'il y a du retard. Il y a du retard. Il y a du retard sur un domaine dont il faut parler, car la semaine dernière a été le théâtre d'une opération militaire particulière en Ukraine. C'est-à-dire que pour la première fois, l'armée russe a utilisé dans le conflit ukrainien des armes, des missiles hypersoniques. Alors qu'est-ce que c'est que des missiles hypersoniques? C'est des missiles qui circulent dans les airs par voie balistique ou semi-balistique, enfin, je ne rentre pas dans les détails, à une vitesse qui est entre 5 et 9 fois la vitesse du son. Bon. Et qui en plus ont des capacités d'être mobiles en approchant de l'objectif, c'est-à-dire ils se mettent à zigzaguer quand ils approchent de l'objectif qu'ils connaissent très bien, et donc pratiquement ils sont ininterceptables. Bon. Et ça, alors, la Russie l'avait annoncé, elle avait dit « j'en ai fabriqué », elle avait annoncé qu'elle les avait expérimentés, et maintenant, pour la première fois, elle les a utilisés sur un théâtre d'opération, donc pendant la guerre d'Ukraine, la semaine dernière. Bon. Ces missiles, elle en a tiré 6, je crois, ont été tirés sur des cibles militaires ukrainiennes, et en particulier sur un poste de commandement enterré à 100 mètres sous le niveau de la terre, où le missile a pénétré, parce qu'à la vitesse où il va, il peut rentrer profond, même dans le béton le plus profond. Bon. Le gouvernement ukrainien n'a pas fait beaucoup de commentaires, mais on sait qu'il y avait là plusieurs centaines d'officiers, un système de commandement de l'aviation et de la défense antiaérienne ukrainienne. Donc les dégâts sont probablement considérables. Et donc c'est coup au but, c'est-à-dire que la Russie, qui a annoncé il y a à peu près 3 ans maintenant qu'elle avait mis au point ces missiles, qu'elle les avait testés, n'a pas parlé en l'air, elle n'a pas fait des rodomontades, elle n'a pas fait le malin, elle a dit, ben voilà, je les ai, je m'en sers, et vous allez voir, ils marchent. Et ils marchent. Bon. Alors là, on n'est pas dans les coulisses du Pentagone, mais effectivement, il doit y avoir une réelle inquiétude en disant, maintenant, ils savent le faire, et nous, on ne peut rien faire contre. Ce qui veut dire que, c'est très intéressant pour la suite des événements, c'est-à-dire que la Russie n'a pas annoncé qu'elle allait tirer sur le Pentagone demain matin. Mais elle pourra dire, quand il y aura des discussions, parce qu'il y en aura forcément, il y en a probablement déjà en coulisses avec les États-Unis, elle pourra dire, regardez, moi, si j'envoie un missile hypersonique sur le Pentagone, il arrivera. Hein. Alors réfléchissez. Hein. Alors vous avez peut-être un deuxième poste de commandement, on sait qu'il y en a un dans les Rocheuses et tout, mais vous n'en avez pas 25. Hein. Donc on rentre dans cette stratégie de ce qu'on appelle, les militaires appellent la décapitation, c'est-à-dire il ne s'agit pas de détruire un pays, de le raser, mais de supprimer l'organe de commandement. Et à ce moment-là, une fois qu'il n'y a plus d'organe de commandement, ben on en revient à une négociation sérieuse et on essaye de sortir de la guerre. C'est une autre vision du monde et c'est plus du tout la même vision que celle qui a été mise dans nos têtes et qui, heureusement, n'a jamais fonctionné, c'est-à-dire la stratégie de la destruction mutuelle, c'est-à-dire l'époque où les États-Unis disaient à l'URSS qui lui répondait « Moi, j'ai 10 000 bombes », l'autre disait « Moi, j'en ai 9 500 hein. ». Si on les envoie toutes, ou même s'il n'y en a qu'une sur 10 qui arrive, il n'y a plus rien, ni aux États-Unis, ni en URSS. Bon, donc on est morts tous les deux. Ouais. Bon, ça ne tient plus. Mais effectivement, la stratégie de la décapitation est une stratégie qui est efficace politiquement, c'est-à-dire que l'humanité n'est pas rayée de la carte. Il y a un conflit politique qui est réglé par l'utilisation de cette arme, enfin dont les prémices sont posées par l'utilisation réussie de cette arme. On est dans un monde très très différent, mais on voit que les commentateurs ont de la peine à s'y faire, parce que s'y faire, ça veut dire, moi je lis un peu la presse stratégique d'ici et là, et en fait du côté occidental, on ne veut pas regarder le problème, alors qu'ils le savent forcément dans le secret des états-majors, mais dire, ben, on est en situation d'infériorité, on n'a pas de réponse à cette stratégie-là, et la seule réponse qui serait, c'est de négocier. Avouez qu'on est obligé de négocier avec un adversaire qui peut vous faire très très mal, puisqu'il va supprimer votre état-major, c'est une réalité qui est très douloureuse pour une tête impérialiste. Accepter qu'on ne peut pas gagner et qu'on n'est même pas en position de force, c'est insupportable, parce que ça fait 200 ans que ça dure et qu'ils ont toujours été en position de force. Mais voilà, c'est les données nouvelles de la situation. Je voulais m'arrêter. Alors, c'est un peu dommage de parler du militaire, parce que je ne veux pas parler que de ça dans les émissions, mais il faut bien comprendre l'état des rapports de force politique que ça suppose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie peut dire « je peux vous faire ça, je n'ai pas l'intention de vous le faire, mais on devrait essayer de se comprendre et de vivre ensemble sur la même planète. Hein, parce qu'autrement, vous allez m'obliger peut-être à utiliser ce genre d'outils. Je les ai, ils marchent. J'en ai fait la preuve et tout. C'est pas de la propagande. Alors, il faut voir. J'ai relu un certain nombre de textes publics du président russe, parce qu'il a parlé, il a évoqué ces sujets dans des conférences de presse depuis 2-3 ans. C'est toujours très très bref. Il dit, ben voilà, c'est au point, là on a fait quelques essais et tout, et puis il n'incite pas, il dit pas, je vais tout casser, vous allez tous vous coucher devant moi, je suis le maître. Jamais il n'est sorti un propos semblable de sa bouche, mais je pense qu'il n'est jamais sorti de sa bouche parce qu'il n'est pas dans sa tête. Dans sa tête, c'est pas ça. Dans sa tête, il y a arrêtez de faire ce que vous faites ou ce que vous essayez de faire, parce qu'autrement, je vais être obligé de me fâcher, mais je n'y tiens pas. Hein. C'est tout à fait clair. Mais il dit jamais, enfin c'est trois phrases au bout d'une conférence de presse de 3 heures, hein, c'est tout. Mais simplement, je pense que le message arrive, les trois phrases, elles sont reproduites, recopiées, etc., décortiquées par les experts. Voilà, ça c'était la partie militaire. Joanne dit sapristi, l'armée, c'est bien joli. Et oui, alors, on pourrait. Alors, je vais parler des femmes, tiens, ça va te faire plaisir. Parce que la grande presse occidentale est en train de faire un tableau de chasse sur les femmes. Alors, c'est les femmes de Poutine. Alors, elle est bien bonne. Alors, les femmes de Poutine, alors, il y a effectivement un certain nombre de niveaux décisionnels dans l'administration d'État, banque centrale, dans différents ministères et tout, un certain nombre de femmes qui, manifestement, ont du caractère et du tempérament et qui ne sont pas des sottes. Bon. Et alors, bien entendu, pour les médias occidentaux, c'est les femmes de Poutine. Bien entendu, c'est polygame, connu, c'est bon, tout ça. Mais en fait, c'est assez intéressant parce qu'on est en train de montrer que, alors, à la différence de ce qui se passerait dans nos pays, où les femmes seraient gentilles, souriantes, à des postes dans l'humanitaire et dans le bienfait humain, là, il n'y aurait en Russie, au sommet de l'appareil d'État, que des femmes, alors j'allais dire, je ne sais pas si je vais être contre, des femmes hommes tirées, enfin, qui sont à la fois, hein, qui ont les deux caractères génériques, qui sont des femmes comme ça d'allure, mais qui sont en fait, qui ont des comportements de mecs, de machos. Hein. Bon. Ça, c'est rigolo. Puis en fait, ben, ils perdent leur temps parce qu'effectivement, il y a des personnes compétentes qui sont du genre féminin et qui font leur travail dans l'appareil d'État russe et ni plus ni moins. Mais il y a aussi des hommes, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors c'est intéressant de voir la façon genrée de travailler sur ces sujets alors qu'effectivement, il n'y a pas de surprise. On a affaire à des personnes de très haut niveau, tout à fait capables. Et celle qui les énerve le plus, c'est Madame la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et chaque fois qu'il y a une sottise qui est dite sur les médias occidentaux, elle la relève avec beaucoup d'humour. Alors, elle n'est même pas brutale, elle n'est même pas mal polie, hein, elle a de l'humour. Ça, c'est beaucoup. Alors, ça, c'est les femmes de Poutine. Ça, c'est notre façon de présenter l'actualité russe. À propos de femmes, d'ailleurs, une remarque que je fais, et c'est presque un mea culpa de ma part, à l'occasion de la dernière manifestation contre les retraites, j'ai rencontré une auditrice, qui peut-être est en ligne aujourd'hui, qui m'a fait remarquer que quelquefois je disais ces messieurs, en parlant de cette espèce de demi-monde pas très intéressant, les directeurs de cabinet, les grands journalistes et tout, et j'ai dit ces messieurs. Elle m'a dit non, il n'y a pas que ces messieurs. Effectivement, il y a quelques. C'est pas réservé ce genre de personnage pas très intéressant, interlope, enfin bon, bref, pas très sympathique, pas moralement très édifiant. Il n'est pas réservé du tout au genre masculin. Il y a les deux. Hein, donc je ne dirais plus ces messieurs-là. Alors cette clique, c'est méchant, mais ce demi-monde est constitué à la fois d'hommes et de femmes. Alors, c'est vrai que quand on regarde sur la dernière période, enfin sur les dernières décennies, il est quand même plus peuplé, ce demi-monde-là, de personnages du sexe masculin que du sexe féminin. C'est-à-dire, pour une Thatcher, vous n'avez pas 25 Thatcher. Hein. Mais on a maintenant la première ministre, la présidente du Conseil italienne, qui est pas mal dans le genre. On en a eu d'autres. Madame Merkel, maintenant qu'on sait à quel jeu elle se livrait par rapport à l'Ukraine aussi, c'était pas mal. Bon, mais effectivement, en nombre, aujourd'hui, alors moi, je ne considère pas du tout que c'est un retard de la condition féminine. Au contraire, il vaudrait mieux qu'il y ait le maximum de femmes dans l'autre camp Et j'allais dire, si aussi il y avait le maximum d'hommes dans l'autre camp, ne suis-je pas stupide et n'est-ce pas guerrier, ça ne serait pas plus mal non plus. Ça, c'est en cours. Alors, c'est vrai qu'on a eu Indira Gandhi, on a eu Benazir Bhutto, mais ça s'est mal terminé. On a eu une première ministre au Sri Lanka, Madame Bandaranaike. Il y a eu quelques figures. Il y a eu Dilma Rousseff. Il y a des figures. Mais effectivement, en proportion, la condition féminine, enfin, le genre féminin est mal représenté dans les chefs d'État et de gouvernement. Voilà, ceci étant dit, je vais m'arrêter sur un événement qui est de grande taille. Qui est de grande taille parce qu'il constitue un changement dans les rapports internationaux d'extrême importance et qui va produire des effets sur un temps assez long. Il s'agit alors d'une réunion qui s'est tenue à Pékin et qui a rassemblé deux délégations au plus haut niveau, une délégation de l'Arabie Saoudite et une délégation de la République islamique d'Iran. Alors, la délégation de l'Arabie Saoudite, je le précise, était présidée par le roi Salman lui-même, pas par son fils, par le roi Salman. Alors, c'était une grosse délégation. Et ce qui s'est passé est un événement diplomatique de taille, puisque, en fait, à l'issue de cette réunion qui s'est tenue donc à Pékin, qui était conduite par le ministre des Affaires étrangères, qui était animée par le ministre des Affaires étrangères chinois, les deux pays ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques. Et c'est un événement en soi énorme, puisqu'en fait, ce que les États-Unis avaient réussi à faire, d'une part en poussant l'Iran dans les cordes et en disant que de lui venait tout le mal, et au contraire en donnant le maximum de possibilités et le maximum d'armement payant à l'Arabie Saoudite, les États-Unis avaient réussi un coup diplomatique extrêmement réussi, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à diviser l'ensemble du Moyen-Orient entre ces deux puissances. Après, chacun des plus petits pays se positionnait d'un côté ou de l'autre, plutôt du côté des Saoudiens d'ailleurs que des Iraniens, mais la division était à un niveau extrêmement élevé, puisque des conflits, et ça il faut le souligner, comme le conflit du Yémen, des conflits comme la guerre de Syrie, étaient largement orchestré par la rivalité, enfin marqué par la rivalité entre ces deux pays sur le terrain. C'était plus net encore en Syrie, puisque l'Iran avait des représentants sur place, donnait des conseils, aidait matériellement même la République arabe syrienne et son armée. C'était la même chose au Yémen, encore que ce fut un peu plus lointain de l'Iran, mais beaucoup plus près de l'Arabie Saoudite, puisqu'au fond, c'était bien un conflit qui ne pouvait pas durer s'il n'y avait pas l'antagonisme entre les deux puissances. Or, cet antagonisme est terminé. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils s'embrassent sur la bouche pour tous les sujets, mais ça veut dire qu'ils ont décidé de ne plus s'affronter. Ils ne sont plus en rivalité. Chacun va avoir un ambassadeur et des délégations, des diplomates chez l'autre, et on va parler de tous les sujets qui fâchent. C'est-à-dire qu'on a, sous la bénédiction chinoise, une reconstitution d'un ensemble régional qui est fort quand on additionne tout ça, parce que vous avez la totalité des producteurs de pétrole du Moyen-Orient dans la même alliance, dans le même groupe. C'est-à-dire que vous ajoutez l'Iran, le Koweït qui était resté un peu entre les deux, les Émirats arabes unis qui avaient aussi pris leur distance par rapport à l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite elle-même, le Bahreïn et tout. Tout ce monde-là, dès l'instant où il n'est plus désuni, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tout, mais où on décide de ne pas se faire la guerre et de ne pas travailler pour une puissance extérieure, là, le climat dans cette région-là potentiellement est changé. Il est changé. Alors, quelles conséquences dans l'immédiat ? Dans l'immédiat, très vite, il faut penser qu'il va y avoir une négociation sur la crise du Yémen, forcément. Forcément, puisque les Saoudiens arrêteront d'accuser les Ansarullah, donc les Yéménites du Nord, d'être financés et armés par les Iraniens. Les Iraniens, s'ils les ont aidés techniquement, c'est acquis, diront « maintenant on s'arrête, on va essayer de trouver un modus vivendi ». Il va falloir trouver une solution politique à ce Yémen du Nord, qui a toujours été très différent du Yémen du Sud, à telle enseigne qu'il y a eu deux États assez souvent, beaucoup plus qu'un seul. Bon, tout ça devient possible dès l'instant où les deux tuteurs, les deux puissances dominantes, disent « maintenant il faut trouver une solution, une issue, arrêtons de nous massacrer ». Alors, les casses sont considérables, les dégâts sont considérables, le Yémen est dans un état, la reconstruction sera considérable à faire aussi. Bon, il y a beaucoup de travail, mais les conditions du jeu diplomatique sont réunies, on peut parler au lieu de tirer. C'est ça qui est nouveau. C'est exactement la même chose qui va se passer en Syrie. parce qu'il faut savoir que sans les financements saoudiens, émiratis, etc., de la rébellion syrienne, il n'y aurait pas de rébellion syrienne. Après, ça a été favorisé par d'autres, mais au fond, c'était ça le fond du problème. Et souvenez-vous d'ailleurs, à contrario, de l'espèce d'énervement des Israéliens en disant « Ah, mais il y a des Iraniens sur le sol syrien, c'est pas bien, etc. » Bon, ça, ils ne pourront plus le dire parce qu'il n'y aura plus cet affrontement entre eux. Donc, les milices, les djihadistes pro-Arabie saoudite et d'autres. Il y aura une tentative de dire « On arrête ». Et donc, là aussi, ces porteurs... effectivement, et tant mieux, c'est porteur d'un climat de politique, de discussion pour sortir de cette crise qui a été organisée par les États-Unis avec les financements et le soutien matériel des Saoudiens. C'est ça la crise syrienne, il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Ça, on en a déjà abondamment reparlé à l'antenne. Voilà les éléments neufs, mais ils sont de très très grande importance. C'est un tournant. Et puis, à partir de ça, il y a toute une série de choses qui vont suivre. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la Chine... fait très modestement, elle dit, ben voilà, on s'est réunis et ils sont d'accord. Hein. Mais ça relève, alors ça relève pas du miracle, parce qu'en fait, ça relève de tout un travail de préparation qui s'est fait de différentes façons, on sentait venir l'affaire au moment de la visite du président chinois en Arabie Saoudite, il y a de ça un mois et demi, mais par contre, les relations entre la République islamique d'Iran et la Chine sont extrêmement étroites. Sont des relations économiques, sont des relations pétrolières, puisque l'Iran vend la plus grosse partie de son pétrole à la Chine populaire, et puis des relations industrielles, très très resserrées aussi. Et puis il y avait aussi l'apprentissage du travail en commun qui avait été fait à partir du moment où l'Iran est rentré dans l'organisation de coopération de Shanghai, ce qui fait 2 ans. Hein. Et donc, quand on est dans l'organisation de coopération de Shanghai, on se réunit au niveau des ministres, on se réunit au niveau de la représentation politique, on se réunit au niveau du patronat, on se réunit au niveau des banques centrales, on se réunit au niveau des intellectuels, de la culture, etc. On fait connaissance en profondeur l'un avec l'autre et on essaye de respecter l'autre dans ses rapports. C'est ça le fondement politique de l'organisation de coopération de Shanghai. On coopère. On n'est pas d'accord sur tout, on est très différents, mais on n'a pas l'intention de régler nos différences à coups de fusil, et c'est ça qui importe. On essaye de progresser ensemble, et on a beaucoup à faire, les uns et les autres. Donc l'Iran était déjà donc, très très proche de la Chine, et donc l'Iran est venu volontiers, en confiance, participer à cette ultime négociation, parce qu'on ne nous a pas expliqué combien de réunions il y avait eu lieu avant au ministère des Affaires étrangères chinois, mais il y en a dû avoir un certain nombre. Mais c'était mûr, à mon avis, dès l'instant où le président chinois est venu à Riyad, c'était plié déjà, c'était prêt. Hein, il suffisait de mettre en scène la dernière présentation de l'objet, de la réussite de ce travail. Donc on a là aussi, on mesure l'échelle de temps de ces pays-là, de la Chine en particulier, qui est une échelle de temps longue, c'est-à-dire qu'on a prévu l'organisation de coopération de Shanghai, ça a été fondé en 2001. Donc l'Iran n'y était pas au début. Alors l'Iran était d'abord membre associé, on l'invitait à certaines réunions, on lui donnait quelques informations, et puis petit à petit, avec l'accord des autres membres de l'organisation, donc la Russie, les républiques d'Asie centrale, et après de l'Inde et du Pakistan qui sont rentrés aussi, l'Iran fait partie de... J'allais dire, c'est presque des... Enfin, c'est pas des relations de famille, on peut pas comparer, c'est inopérant. Mais c'est des relations de voisinage intelligent. On est les uns à côté des autres sur cet immense continent. On a des intérêts, d'abord des intérêts pour nos populations, parce qu'on a tous de gros besoins de développement, de progrès en matière de culture, d'éducation et des progrès en matière industrielle. Et donc, on partage ce qu'on peut partager sans se marcher les pieds les uns sur les autres. C'est ça la philosophie générale. Alors, c'est une philosophie qui est à exécution lente. On annonce ça, on dit bon, on va essayer de se comprendre avec son voisin. Mais au bout de 20 ans, hein, puisque 2001-2023, il commence à y avoir des fruits. On cueille des fruits. C'est ça l'échelle à laquelle se placent ces procédures-là. Alors, ça permet de mieux comprendre l'espèce de, j'allais dire, d'insuffisance intellectuelle de nos dirigeants occidentaux. Alors, ce n'est pas une insuffisance intellectuelle, ils ont fait des études, ce n'est pas une question de niveau de quotient intellectuel, c'est une question de perspective et d'échelle de temps du travail. C'est-à-dire, quand il s'agit, comme c'est le cas de M. Biden aujourd'hui, de dire « il faut absolument que je gagne les primaires si je veux être une deuxième fois président », bon, il ne va penser qu'à ça, et lui et tout son entourage, jusqu'à la fin de l'année 2023. Et donc le reste, ça sera business as usual. On continue ce qui est fait, mais la possibilité d'une réflexion de fond n'est pas possible dans cette espèce de climat d'hystérie. Et même chose pour la... Je reviens sur la question des retraites. Dès l'instant où il est dit « il faut que ça passe dans les deux mois et qu'au 31 mars, ce soit plié », ce n'est pas une façon de régler les problèmes sociaux. Surtout quand il y a l'opposition qu'il y a, que chacun a pu constater. Mais ça, c'est les échéances, l'espèce de court-termisme de la politique occidentale qui... Alors, j'insiste là-dessus parce que ça a été dit et écrit par certains maintenant. Il est probable qu'après le succès, réfléchissez bien à ceci, citoyens de la République française, si Macron réussit à faire passer la loi sur les retraites, le prochain projet, c'est une réforme de la Constitution de la France. Alors, quand on voit déjà l'usage qu'il fait du texte de la Constitution tel qu'il est hérité de Gaulle, Sarkozy et tout, Sarkozy a fait quand même quelques retouches. On peut s'inquiéter. Et d'ailleurs, ce qui commence à suppurer de ceux qui se tiennent à proximité des milieux où on réfléchit à ça, c'est de dire que probablement M. Macron envisage de rester au-delà de son deuxième quinquennat. Mais ce n'est pas surprenant. Il est comme ça, il faudra l'arrêter, il ne s'arrêtera pas tout seul. Hein, il ne s'arrêtera pas tout seul. Et moi, je ne suis pas du tout... Quand on a dit « c'est pas possible », mais si, c'est même tellement possible que le personnage ne peut pas fonctionner autrement. Il ne va pas lâcher ça. Il ne va pas lâcher ça. C'est l'affaire de sa vie, bien sûr, c'est l'affaire de sa vie. Mais il ne va pas pouvoir partir. Et donc, nous allons être, préparons-nous, nous allons être confrontés à des moments encore plus difficiles que la question des retraites. Car là, il s'agira de dire à quel jeu on joue, avec qui et comment. Et avoir à la place de la constitution gaullienne, qui était une constitution un peu autoritaire et où l'exécutif était déjà prédominant, une constitution où le législatif sera totalement nié. Donc où la représentation de la population ne vaudra pas grand-chose. C'est ça qui se prépare. Bon. Et c'est ça qui se prépare avec la complicité d'une partie de la droite, puisque je reviens encore sur le sujet des retraites. Il est bien clair que l'attitude des Républicains, donc de la droite au Sénat, fait que les Républicains sont parfaitement satisfaits de la politique sociale de Macron. C'est la même, c'est tout. Macron, il a beau dire qu'il est du centre, non, il fait une politique de droite, et la droite reconnaît que c'est une politique de droite, et donc ça lui va, c'est tout. C'est pour ça qu'ils ont voté comme un seul homme, enfin quasiment tous les sénateurs LR ont voté pour le projet gouvernemental. On a identification des deux. C'était tout ce que je voulais dire là-dessus. Bon, je regarde l'heure quand même, parce que je vais reparler. De quoi je vais reparler ? Oh, des petites choses quand même, mais c'est assez intéressant. Des petites choses du genre. De quoi s'occupent les présidents des États-Unis ? Bon, à part recevoir donc ses collègues, ses confrères donc australiens et britanniques. Alors, je signale d'ailleurs que AUKUS, c'est bien clair, c'est anti-français, puisque donc il s'est agi de supprimer la fourniture de la France en sous-marin classique, et donc de mettre à la place une structure typiquement anglo-saxonne. Hein, là, on reste entre anglo-saxons et on ne se mélange pas avec les autres, hein, pour mettre au point les systèmes de sous-marins nucléaires australiens. Mais j'en viens donc à ce qui s'est passé aux États-Unis cette dernière semaine, parce que c'est ça aussi, l'extrême rapidité, l'extrême instabilité, l'extrême fébrilité des gouvernements occidentaux s'explique aussi par le fait que c'est la finance qui les gouverne, et c'est l'instabilité financière qui les rend instables eux-mêmes. Je m'explique, il y a eu ce vendredi dernier donc une faillite, c'est la Silicon Valley Bank qui a fait faillite. C'était vendredi. Alors, la Silicon Valley Bank, c'était une banque de dépôt, pas une grosse banque d'affaires, mais c'est quand même la 16e banque des États-Unis en termes donc, de dépôt. C'est pas nu. Et c'était surtout la banque principale des sociétés de la Silicon Valley. Bon. Alors, elle fait faillite. Ben, et oui, Et donc, ça a des répercussions immédiates sur le marché boursier. Hier encore, ça s'est vu. Je n'ai pas regardé les cours ce matin, mais c'est très, très sensible. Partout, hein, enfin, en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, etc. Sur le marché, bien sûr, boursier des États-Unis. Alors, il y a des banques qui diminuent de quelques points. Il y en a qui tombent de 20% dans la journée. Hein. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, ben, panique. Alors, il y a une législation aux États-Unis qui permet, en fait, la banque est reprise par un organe d'État qui assure que les déposants, ceux qui ont mis leur argent comme n'importe qui sur ce compte en banque, ne seront pas lésés, c'est-à-dire qu'ils auront leur argent, c'est-à-dire c'est l'État qui va dire, à condition que vous ayez moins de 250 000 dollars chez SV Bank, cette structure d'État vous les remboursera. Vous n'allez pas tout perdre. Hein. Par contre, les actionnaires de la banque, les actionnaires, ils ont tout perdu puisque la banque a fait faillite. Hein. Alors, donc là, on voit qu'il y a des dispositifs pour éviter l'impopularité du régime. Parce qu'imaginez qu'il y ait les trois quarts des techniciens de chez Google, Apple, qui n'aient plus d'économie et qui soient en train de faire la mendicité dans la rue, dans les alentours de San Francisco. Ça ferait mauvais genre, hein, ça se passerait mal. Bon, donc là, ces gens-là vont dire jusqu'à 250 000 dollars. Si vous aviez plus, bah, tant pis pour vous, mais au moins, on vous garantit 250 000 dollars, comme probablement, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de licenciements dans les boîtes de ce qu'on appelle les GAFA ces dernières semaines, bon, ils auront au moins possibilité de voir venir pendant quelques temps, mais ils vont sûrement être à la porte dans les jours qui viennent pour beaucoup d'entre eux. Bon. C'est ça les États-Unis. Alors la fébrilité à la Maison-Blanche, et au fond, ben, quand ils sont fébriles là-dessus, quand Biden est fébrile aussi par rapport aux primaires et par rapport à son éventuelle réélection, qu'est-ce qui peut se passer en Chine, qu'est-ce qui peut se passer en Ukraine, c'est finalement un sujet un peu lointain. Hein, c'est sûr, parce que là, ils sont pas tranquilles. Alors, il s'ajoute à ça, pour Biden, les suites, alors parce que ça continue à se confirmer comme un accident gravissime, les suites de la catastrophe ferroviaire, où il s'est répandu donc de la dioxine en grosse quantité. La dioxine, vous savez que c'est un poison très, très dangereux. Toute une série de produits chimiques qui étaient dans ces wagons-citernes, qui ont pris feu. Une véritable catastrophe écologique qui a été niée, mais qui produit des effets. Vous savez que la dioxine, ça met des dizaines d'années, voire des centaines d'années à s'éliminer. La dioxine, c'est, rappelons-nous, côté européen, l'accident de ces vaisseaux, et rappelons-nous que c'est un des composants aussi de fameux agents orange utilisés dans la guerre du Vietnam. Je rappelle à quoi servait cet agent orange, qui était une production, le haut du catalogue de la société Monsanto. L'agent orange servait à défolier la jungle vietnamienne. C'est-à-dire que comme sous les arbres de la jungle vietnamienne, il y avait des combattants vietnamiens, du Viet Minh, ben, quand il n'y avait plus de feuilles, on les voyait. Et on pouvait les bombarder, les passer à la mitrailleuse avec un avion ou un hélicoptère. Bon. Donc, effectivement, l'armée des États-Unis a déversé des milliers de tonnes d'agents orange, donc de défoliants. Les feuilles sont tombées. Mais après que les feuilles sont tombées, effectivement, il y a eu au sol quantité de déformations génétiques des enfants qui avaient qu'un œil ou qu'un bras, etc. Ben, et il y en a encore. Hein, c'est-à-dire que ça a touché les gènes de leurs parents. Voilà donc pour donner l'échelle des soucis des États-Unis. Il y a eu deux autres banques plus petites qui ont fermé. Bon, mais voilà. C'est important de savoir que les fragilités de ce système, c'est-à-dire que quand il s'agit donc de système politique où c'est la bourse qui est en fait l'endroit central et dominant, quand la bourse va mal, le politique perd la tête. Il ne sait plus où il est. Hein. Alors il va à des mesures très très rapides. J'assure la protection des dépôts jusqu'à 250 000 dollars et tout. Je ne sais pas où je trouverai les dollars, mais je vais les imprimer, mais ça, il n'y a pas de souci. Mais tout ça, en fait, cette faillite aussi, alors c'est là que ça devient cocasse et triste pour eux, cette faillite de cette banque et de quelques autres est liée au fait que depuis quelques mois, la Banque centrale des États-Unis, au lieu de faire comme elle a fait depuis les débuts du Covid, de déverser de l'argent à taux zéro, c'est-à-dire de donner de l'argent aux banques pratiquement gratuitement, a remonté ses taux. Mais elle les a remontés à 4,5%. C'est-à-dire que des entreprises qui, depuis des années, ont l'habitude de travailler avec de l'argent à 0% ou à 0,5%, quand on leur monte les échéances à 4,5%, elles craquent, ça ne tient plus. Donc la banque centrale, les États-Unis sont en train d'encaisser le changement de politique qui était soi-disant une politique anti-inflation de la banque centrale, qui est en train de se retourner contre eux. Mais là aussi, on est toujours dans les courtes vues, l'immédiateté. On prend une mesure et puis on s'aperçoit que ça ne marche pas, on la corrige, mais on fait autre chose de travers, etc. Donc court-termisme et dominance de la finance qui essaye toujours de s'en sortir. Alors, je vais reprendre un peu mon souffle, là. On va passer la petite musique que j'avais prévue, puis après, je vous dirai de quoi il s'agit. On fera la surprise à Johan aussi.
Hacer es ya. Ya. Diciembre, buena fecha para que arranque. Hoy es primero de diciembre. Hoy arranca la ofensiva. Hoy, primero de diciembre. Hoy arranca la batalla por la enmienda constitucional.
Oigan, ¿escucharon lo que dijo el presidente?
¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
Que la enmienda sí va.
Merci, on ne va pas tout écouter, mais je voulais vous faire écouter ce morceau parce qu'on écoute en début, c'est Hugo Chavez lui-même qui est en train de mener un meeting électoral. Alors, un meeting électoral, ben, il chante, il parle, il danse avec la population qui est là. C'était à l'occasion d'un référendum constitutionnel et j'ai décidé de passer ce morceau parce qu'on a fêté ces jours-ci l'anniversaire de la mort d'Hugo Chavez qui, vous le savez, a été assassiné. En fait, bon, il n'y a pas de doute là-dessus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il donnait de lui-même, de sa personne, il venait, il chantait, il grattait la guitare et tout au milieu de la foule pour le meeting électoral, disant il faut voter si, mais il était partie prenante. C'était pas un monsieur de l'extérieur qui disait faites ça, c'est je suis avec vous, on fait ça ensemble. Hein, moi et vous, on est dans le même bateau, on fait la même chose. Bon, et ça, c'est un acquis de Chavez qui est considérable. Qui a permis de donner la force à ses successeurs de passer les difficultés qui leur ont été faites par les États-Unis. Et puis, cette population qui était enchantée, on le voit là sur la vidéo de cette musique, on voit les joueurs de l'orchestre qui se rassemblent, ils sont tout contents, ils viennent de voir Chavez à la télévision, et ils chantent et ils dansent et tout là où ils sont, parce qu'il y avait une véritable ferveur populaire, parce que le peuple sentait que sa condition allait changer. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était de chez eux, qui était un homme du peuple, en fait, qui disait ben, on va se bouger, on va changer les choses. Et ce qu'il a fait pour une bonne part. Bon, on lui a pas facilité les choses par ailleurs. Alors, pour le reste, puisque je suis en Amérique latine, deux petits mots sur ce qui se passe en Colombie. Alors, on a une nouvelle étape dans les négociations entre le gouvernement colombien de Gustavo Petro et de la dernière rébellion armée qui s'appelle l'ELN. Alors, c'est une série de réunions parce qu'il y a eu des difficultés au début parce qu'il y avait de bons esprits qui disaient le cessez-le-feu est signé. Or, la guérilla de l'ELN, instruite par le précédent des FARC, a dit non, on négocie pour savoir qu'est-ce qu'on met après le cessez-le-feu, où on fait, quel programme, comment on fait la redistribution des terres, comment on fait la transformation de la société. Après, le dépôt des armes, c'est à la fin, une fois qu'on est bien d'accord sur ce qui se passe après. Hein, on ne va pas déposer les armes, on dit maintenant, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ou alors, vous faites ce que vous écrivez, puis vous ne le faites pas ce qui s'est passé avec les FARC. Donc il y a eu, il faut situer le processus de négociation, une première réunion a lieu à Caracas, une deuxième réunion a eu lieu à Mexico, et la prochaine aura lieu à La Havane. Et c'est au terme de ces cycles de réunions, entre donc la guérilla de l'ELN et le gouvernement, qu'il y aura effectivement un cessez-le-feu si le contenu de la plateforme qui est actée en commun satisfait l'ELN. Donc on n'en est pas, on n'est pas encore là, mais on avance d'une façon raisonnée et raisonnable avec la complicité ou l'aide plutôt des gouvernements voisins qui aident à ce processus, que ce soit le gouvernement vénézuélien, le gouvernement mexicain et maintenant le gouvernement de La Havane. C'est ça qu'il faut noter parce qu'on ne sort pas de guérilla qui dure depuis des trentaines et des quarantaines d'années en disant mais ça y est, c'est fini, on se rassemble, on est réconciliés, tout va bien. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'autant plus qu'il faut savoir que dans le même temps où ton lieu c'est pour parler, il continue à y avoir des assassinats de leaders, ce qu'on appelle leaders sociaux en Colombie. Leaders paysans, leaders sur les questions de droits de l'homme, etc. C'est-à-dire que les escadrons de la mort, les paramilitaires, n'ont pas arrêté leur activité. Ça doit aussi faire partie des engagements du côté du gouvernement colombien. C'est lui qui doit les arrêter, c'est pas la guérilla. La guérilla, elle sait que de toute façon, quand ils sont face à face, il y en a un des deux qui meurt. Bon, mais le gouvernement, il doit faire respecter la légalité républicaine. Donc interdire l'activité de ces gens. Ce ne sera pas le plus facile. Et donc le LN aura raison de dire, prenez des engagements clairs. Hein, parce qu'on ne veut pas, nous, comme qui est arrivé à 200 ou 300 dirigeants des FARC, c'est d'être liquidés dès l'instant où ils ont posé leur fusil. Voilà pour ce coin-là. Et puis d'autres petites relations dont on ne parle pas, c'est assez amusant, parce que le président du Bélarus, je vous ai parlé de l'Iran tout à l'heure à propos donc, de la réouverture des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais le président du Bélarus, ces jours-ci, était reçu donc en Iran, à Téhéran, parce qu'il se trouve que l'Iran et le Bélarus ont d'excellentes relations. Alors ça paraît inattendu, hein, mais il y a d'excellentes relations. Il faut savoir que le Bélarus a gardé de l'ère soviétique une industrie en particulier métallurgique de très très haut niveau. Ils ont été assez longtemps le meilleur lieu de production de tracteurs et de camions poids lourds de toute l'Union soviétique. Et ils ont gardé un vrai savoir-faire et une vraie capacité. Et donc il y a des échanges sur des terrains qu'ils connaissent. Dans le même temps, un autre représentant du Bélarus était à La Havane pour parler d'échanges de coopération scientifique et technique avec les Cubains. Vous voyez, c'est des petites choses que je note comme ça parce qu'on a affaire à une espèce de réaménagement des relations dans le monde, c'est-à-dire sur la carte, il n'y a rien qui paraît s'imposer pour dire qu'il y a de bonnes relations entre l'Iran et le Bélarus, mais il y a de vraies raisons, à la fois politiques, à la fois techniques, scientifiques et tout. Même chose entre le Bélarus et Cuba. Et tout ça se met à fonctionner sous nos yeux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul chef d'orchestre qui ne dirige qu'à son profit. Voilà ce que je voulais dire avant de laisser la place à nos successeurs. Je vous parlerai, on va reparler un petit peu la semaine prochaine des réfugiés turcs. Je dis deux mots quand même. La Turquie, fidèle à elle-même, j'allais dire, enfin, la Turquie d'Erdogan, n'impliquons pas tous les Turcs là-dedans, a mis au point un système d'accueil de réfugiés turcs qui rend pratiquement l'accueil des réfugiés impossible. Alors, il faut savoir que la pression était forte, puisqu'il y a en Turquie beaucoup de familles d'origine turque qui vivent, et donc ils étaient prêts à recevoir quelqu'un de leur famille qui n'a plus de logement, qui n'a plus d'école, qui est malade, etc., qui a subi. Il faut savoir qu'on est presque à 50 000 morts en Turquie. C'est énorme. Bon. En fait, le dispositif administratif est tellement vicieux, j'allais dire, que pratiquement c'est impossible. Ou alors, il faut prouver... Alors, imaginez, vous avez votre maison qui a été effondrée, il n'y a plus rien. Vous vivez dans une tente depuis quelques semaines et on vous demande de fournir des papiers, votre livret de famille, votre passeport, etc. Vous n'avez plus rien, évidemment. Donc vous n'avez aucune chance d'être accueilli par votre famille turque qui est prête à vous accueillir, mais qui ne peut pas. Qui ne peut pas parce qu'on a mis au point un parcours du combattant administratif qui fait qu'il y aura zéro turc ou peut-être une petite minorité qui pourront être accueillis par leur famille turque en Allemagne. C'est ça les relations vis-à-vis des réfugiés. En Allemagne, oui, c'est l'Allemagne. Mais parce que c'est de là que venait la grosse demande. Il y a beaucoup de familles d'origine turque qui disaient « je suis prêt à accueillir ». Alors, il faut qu'ils prouvent qu'ils ont un grand logement, qu'ils ont des revenus spéciaux, etc. Bon, bref, c'est pas possible, c'est tout. Donc, il y a un affichage humanitaire qui est démenti par la pratique administrative. Je voulais le dire parce que c'est honteux, tout simplement. Merci de votre attention. Merci, Johan. Et place à la musique.